France Culture. Le journal. Mathilde Cariou.
Bonjour à tous. Téhéran brûlera si elle continue d'envoyer des missiles sur Israël. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou surrenchérit dans la menace et la population de Tel Aviv sous les bombes le soutient. Dans ce contexte, plus question de négocier sur le nucléaire iranien. Téhéran n'ira pas à la réunion prévue aujourd'hui à Oman. Pas de roi aux États-Unis. Les opposants à Donald Trump manifestent et dénoncent dans la rue ses dérives autoritaires. Et puis le PS doit-il rompre avec la France insoumise pour exister à gauche? La question divise les militants au Congrès socialiste de Nancy. Des missiles sur Téhéran et des drones sur Tel Aviv. Les échanges de tirs s'intensifient au troisième jour de la guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Cette nuit, 13 personnes sont mortes dans le centre d'Israël. On compte également une centaine de blessés et Téhéran annonce des attaques à venir 20 fois plus fortes qu'hier. Pas de quoi faire reculer Benjamin Netanyahou qui continue de renchérir avec des frappes sur le ministère iranien de la Défense ce matin. Alors qu'en pensent les habitants de Tel Aviv, la ville la plus touchée par les représailles? Alice Moreno leur a posé la question et la plupart affichent un soutien inconditionnel à leur gouvernement.
Pourtant résidente d'un quartier visé par une frappe iranienne, Sarah soutient plus que jamais le chef du gouvernement.
We must finish with Iran.
Nous devons en finir avec l'Iran. Nous faisons tout le boulot pour tous les pays du monde. Nous n'avons pas le choix car nous sommes le premier pays que l'Iran veut bombarder. Benjamin Netanyahou est très très courageux, vous savez.
Donc vous le soutenez encore plus qu'avant?
Encore plus, oui, encore plus.
Israël a frappé l'Iran en premier, un déclenchement du conflit assumé ici.
De manière évidente, c'est Israël qui a débuté ces attaques. Mais il faut dire que nous avons déjà connu des guerres avant. Nous ne sommes pas une nation qui cherche la guerre. Nous la menons simplement si nous avons l'impression que ne pas entrer en guerre entraînerait des conséquences plus graves.
Les conséquences, la riposte iranienne, les Israéliens s'y attendaient. David, 70 ans, est chauffeur de taxi. Il n'est pas particulièrement inquiet.
J'ai connu la guerre du Kippour, l'opération paix en Galilée, au Liban. C'est toujours la même chose, rien de nouveau. À mon âge, je ne m'inquiète plus.
Lui aussi est convaincu que l'Iran représentait bien une menace.
En effet, dans la région, le gouvernement israélien trouve peu de soutien. Les frappes sur Téhéran ont été dénoncées par l'Irak, la Jordanie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et même l'Azerbaïdjan, pourtant allié d'Israël, condamne ce matin et n'acceptera jamais, je cite, que des missiles soient tirés depuis son territoire vers son voisin iranien. Les seuls à afficher un soutien explicite à Israël, ce sont la France et les États-Unis. Donald Trump fait même monter la pression ce matin en menaçant l'Iran de répliquer avec toute sa force s'il venait à attaquer les États-Unis. Dans ce contexte, Téhéran dit qu'il ne souhaite plus discuter de son programme nucléaire. Un nouveau round de négociations était prévu aujourd'hui à Oman, mais le fracas des armes, Marie-Pierre Véraud, a eu raison de la diplomatie.
Le sultanat d'Oman, comme les autres États dans la région et au-delà, répète pourtant que la diplomatie et le dialogue restent la seule voie vers une paix durable. Mais l'heure est toujours à la guerre. Ces discussions sont vides de sens, selon l'Iran, qui ne se voit pas dialoguer quand Israël continue à pilonner méthodiquement ses infrastructures et à faire plusieurs dizaines de victimes. Dialogue impossible en outre, selon la diplomatie iranienne, avec les États-Unis qualifiés de plus grands soutiens et complices de l'agresseur. Les États-Unis que le président iranien accuse de malhonnêteté. En un sens, Benjamin Netanyahou a gagné, lui qui voyait ces discussions d'un très mauvais œil, lui qui entend réduire à néant la menace iranienne, qui veut anéantir son programme nucléaire. Reste une question, comment sortir de cette spirale infernale d'attaques et de représailles? Le président turc Erdogan sonne l'alarme, il appelle à arrêter d'urgence Israël, qui met-il en garde, cherche à entraîner toute la région dans le feu.
7000 soldats, 150 véhicules militaires, une cinquantaine d'avions et des chevaux. Le défilé se veut grandiose aux États-Unis pour les 250 ans de l'armée américaine. Ça se passe à Washington sous le regard satisfait de Donald Trump, lui qui tenait absolument à organiser cette grande parade, la première aux États-Unis depuis 91 et la fin de la guerre du Golfe. Par ailleurs, des milliers d'opposants au président se sont rassemblés partout dans le pays pour protester contre sa politique et ses dérives autoritaires. exemple ici à Los Angeles, marqué par des raids de la police anti-immigration depuis une semaine. C'est un reportage de Loïc Piala.
Un groupe à l'arrière d'un camion pour divertir la foule, un bébé Donald Trump gonflable au-dessus du cortège, de l'humour dans les pancartes. À Los Angeles, la colère a été festive, mais elle est restée de la colère. Christophe trouve les raids de ICE, la police de l'immigration, beaucoup trop cruels.
Oui, il y a des lois, mais la façon dont ils les appliquent en ce moment, c'est trop. Il faut faire preuve d'humanité, placer la morale au-dessus de la loi. Eux préfèrent promouvoir la haine.
L'immigration n'a pas été le seul thème d'une manifestation baptisée No Kings, pas de roi. David, long barbe blanche et habitué à manifester depuis la guerre du Vietnam, en veut aux alliés de Donald Trump.
La Cour suprême a fait de lui un roi. Ça me fâche énormément. Il a juste à demander à la Cour suprême et il le laisse faire.
Tony porte avec une quinzaine d'autres manifestants une banderole clamant « Nous sommes la Constitution », une Constitution que le président ne respecte pas selon lui.
C'est comme si la loi ne s'appliquait pas à lui. Il s'offre une parade pour son anniversaire, ça va nous coûter 45 millions de dollars.
La manifestation s'est déroulée dans le calme, mais la fin de journée a encore une fois été plus tendue. Le couvre-feu est toujours en vigueur dans le centre de Los Angeles.
Manifestation également à Salt Lake City, dans l'Utah, où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et les forces de police. Une personne a été gravement blessée. Emmanuel Macron attendu cet après-midi au Groenland. Visite de quelques heures seulement, mais un arrêt très symbolique sur la route qui le mène ensuite au Canada pour le sommet du G7. Le président entend marquer la solidarité française et européenne vis-à-vis de ce territoire autonome danois que Donald Trump menace d'annexer. Emmanuel Macron veut envoyer un signal fort en faveur de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières. Louise Baudet.
Au Groenland au moins, Emmanuel Macron sait qu'il est attendu. Impuissant à peser sur le cours des événements au Moyen-Orient, le président français se rend dans le territoire arctique parce qu'il y est invité et il y sera certainement bien reçu aux antipodes de l'accueil glacial réservé fin mars au vice-président américain J.D. Vance et à sa femme Usha, privée de courses de chiens de traîneau et d'immersion dans la culture autochtone. Et c'est bien à l'Amérique trumpiste que le message est adressé. Le Groenland n'est pas à prendre et la prédation n'est pas une option, a prévenu cette semaine Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger à se rendre sur l'île depuis les menaces d'annexion de Donald Trump, qui veut prendre possession d'une manière ou d'une autre, dit-il, de ce territoire riche en ressources minières et surtout hautement stratégique entre Russie et Amérique, à la croisée des nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique. Emmanuel Macron va y survoler un glacier, alors qu'au Groenland, la glace a fondu fin mai 17 fois plus vite que la moyenne. Visite ensuite d'une station hydroélectrique financée par l'Union européenne qui permet à l'île de se décarboner avant un entretien politique à bord d'une frégate porte-hélicoptère avec les premiers ministres groenlandais et danois. Les trois ne se quitteront pas de la journée, précise l'Élysée.
Enfin, alors que les Insoumis et les Verts étaient dans la rue hier pour une manifestation de soutien au peuple palestinien, les socialistes, eux, étaient réunis en congrès à Nancy. Ils y sont toujours d'ailleurs, troisième et dernier jour, avec un discours d'Olivier Faure prévu dans la matinée, peut-être abordera-t-il les rapports avec les Insoumis? C'est un sujet qui fâche au PS. Hier, le député Jérôme Guedj a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Alors, comment trouver sa place à gauche sans compter sur LFI? Laurence Méride a posé la question aux militants.
Béatrice, militante d'Ille-et-Vilaine et soutien de Nicolas Mayer-Rossignol, exige une ligne claire.
N'accepter aucune collision, puisqu'on voit que les collisions avec la France insoumise nous entraînent dans son socle idéologique et rendent notre Parti socialiste flou.
Et pour cela, il suffit de revenir aux thèmes fondamentaux du Parti socialiste pour Marc, venu des Bouches-du-Rhône.
Par exemple, la laïcité, améliorer le service de santé, tout ce qui est nos valeurs propres au Parti socialiste, des valeurs qui ont fait notre gène depuis des années, des années, des années. Et qu'on soit, nous, le grand parti politique qui veut rassembler la gauche.
Oui, il est temps de passer à autre chose, plaide Antoine à Véronée, temps de tourner la page.
Moi, je pense que c'est plus un sujet pour les socialistes, que la rupture est consommée entre les insoumis et les socialistes, assez clairement. Moi, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à des sujets de fond qui ont été abordés, la question de la démarchandisation par exemple qui a été portée par Boris Vallot, l'organisation du parti, la formation des militants et des élus, la présence médiatique des socialistes. C'est là-dessus que je pense qu'il faut passer du temps de débat, plus que pour ou contre Jean-Luc Mélenchon, qui est un non-débat à mon avis.
Au final, tous prônent le rassemblement en interne afin de s'imposer à gauche et de battre l'extrême droite au municipal et à la présidentielle.
Laurence Mérida, Nancy pour France Culture. La vigilance orange est levée ce matin des Ardennes au Cantal. Le ciel reste couvert et les températures chaudes, il fait entre 17 et 28 degrés ce matin.